Bonjour à toutes et à tous. Le thème des nouvelles vagues cette semaine, c'est l'animal. En ce lundi, une petite famille de diplomates garous, cohabitation avec les loups, autre carte du vivant et diplomatie d'un nouveau genre. C'est parti. Dans la forêt, il faut toujours dormir sur le dos, visage découvert, explique Joanny Kou à l'anthropologue Edouard Ocon qui guide. Si l'on dort ainsi, on est vu par le jaguar qui rôde comme un soi, parce que l'on peut dans cette position rendre son regard au jaguar. Le jaguar me reconnaît symétriquement en tant que soi comme lui-même et me laisse ainsi tranquille. Mais si l'on dort sur le ventre, visage caché, alors on est vu par le jaguar comme de la viande et ce dernier n'hésite pas à attaquer. L'identité de l'humain, soi ou viande, change en fonction du regard que le jaguar porte sur lui. Et comme le dit Edouard Cohn, la manière dont les autres types d'êtres nous voient importe. Elle change les choses. Il est 14h. Changeons les choses. Bienvenue à tous dans les nouvelles vagues. Les nouvelles vagues passent par ici, elles repasseront par là et parfois l'on se souvient d'expériences qui les ont déclenchées. C'est ce que nous demandons de faire à une personne chaque semaine pour nous, trouver dans sa mémoire 5 moments qui lui ont permis de voir les choses autrement, de changer, de s'ouvrir ou qui l'ont simplement ému. Marie Hamp est une jeune costumière qui travaille pour la compagnie du théâtre Inutile et aujourd'hui, elle évoque sa découverte de la découpe en une pièce. Cela modifie profondément son rapport aux vêtements, à la couture et au patron de tissu. On l'écoute vers 14h50. Premier moment donc d'une semaine consacrée à l'animal et l'on commence par un, souvent présenté comme ennemi quand il n'est pas tout simplement rapproché du diable. On commence par un qui ne se laisse pas facilement approcher, observer un animal qui fuit et nous échappe. Il y a du loup aujourd'hui dans votre radio. Qui peut le plus, peut le moins, si nous parvenons à cohabiter avec le plus stigmatisé, le plus haï, le plus effrayant, le plus difficile à gérer, le plus nettement rival dans la pyramide trophique, alors nous pourrons cohabiter avec les autres. Écrivez-vous, Baptiste Morisseau, dans votre livre « Les diplomates, cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant », un livre qui propose de redécrire notre conception de la coexistence séparée avec le sauvage en termes de cohabitation diplomatique. Et pour ce faire, vous n'êtes pas seul. Et en plus des textes en nombre qui viennent compléter, éclairer, faire avancer votre pensée, il y a du loup, bien sûr, du jaguar, quelques primates parfois, et une bonne famille de diplomates garous. Huxley, Darwin, Lawrence, Saint-François, Grandin, Lucy King et des chasseurs. Au passage, heureusement que quelques femmes apparaissent dans les citations de textes plus contemporains, sinon ce serait à désespérer. En tout cas, c'est un livre peu commun, passionnant, un livre qui renvoie à d'autres livres et évidemment tellement à nous-mêmes et qui est publié aux éditions White Project. Bonjour Baptiste Morisseau et bienvenue.
Bonjour, merci.
Vous êtes présenté sur la quatrième de couverture comme un docteur en philosophie, ce que vous êtes, comme un enseignant à l'université d'Aix-Marseille et aussi comme quelqu'un qui travaille le pistage des loups. Qu'est-ce que ça veut dire, puisque vous revenez aussi sur cette notion dans votre livre? Ça consiste à quoi?
Ben, ça consiste à aller sur le terrain, notamment dans les vallées, dans les plaines où les loups ont été aperçus, où des traces ont été relevées, et à essayer de comprendre comment ils font territoire, à essayer de lire leur passage, chercher leur chemin familier, essayer de comprendre comment ils s'installent parmi nous. Parce que pour cohabiter avec des étrangers qui sont pas conviviaux, comme dit Patrick de Georges, qui sont pas les animaux les plus conviviaux, il faut comprendre finement leur comportement et leur manière de s'établir parmi nous.
Et vous faites ça depuis combien de temps?
Ça doit faire 3-4 ans.
Alors vous racontez ça par exemple dans un article de Vacarme, vous racontez une nuit, c'est quelque chose qui se passe davantage la nuit que le jour?
Le pistage non, parce que dans le pistage on accepte la donnée un peu fondamentale qu'on ne verra pas de loups. Les loups sont des animaux extrêmement difficiles à voir, c'est des animaux qui ont une distance de fuite qui est très longue.
Alors ce qui veut dire, pour être un peu précis et donner à nos auditeurs justement cette question, de les éclairer sur cette question de distance de fuite, c'est-à-dire qu'ils se dérobent à notre vue avant même que nous les ayons vus.
Absolument, bien avant qu'ils rentrent dans notre champ de vision. Donc en conséquence, c'est très difficile de les voir. Par contre, ils laissent des traces, ils laissent des traces involontairement dans la neige, dans l'argile, dans la boue, et ils laissent des traces volontairement, puisque c'est une espèce hautement territoriale qui délimite des territoires en déposant des laissés et qui sont lisibles, qui sont interprétables, même si malheureusement, nous, en tant que primates, on a un nez assez faible, et donc on n'arrive pas à lire les informations qui sont présentes dans les laissés. Mais on peut quand même essayer de comprendre ce qu'ils expriment par toutes ces traces qu'ils laissent volontairement et involontairement.
Donc ça consiste à venir après le passage.
Oui, ça consiste à venir après le passage, ça consiste à chercher dans des endroits où on espère que la trace va marquer, sur le bord des rivières argileuses, notamment dans les Alpes de Haute-Provence ou dans le Var. Moi personnellement je viens du Var, et dans le Var, plusieurs meutes se sont installées dans le nord, autour du camp militaire de Canjuers, ce qui est devenu en fait un endroit extrêmement intéressant de ce point de vue-là, parce que les loups sont omniprésents et on peut lire leur passage, essayer de comprendre ce qu'ils font et lire leur comportement et leur manière d'articuler leur comportement à ceux des humains. Donc je raconte notamment dans le livre une séance de pistage assez intrigante où on tombe sur des pistes de loups tout près d'un site de canyoning où des individus en combinaison fluorescente crient bonsaï en plongeant. Et en fait, ce qui nous a intrigué, c'est que les traces sont juste à côté du canyon, alors qu'il y a des zones plus sauvages ailleurs qui ne sont pas du tout arpentées par les loups. Jusqu'à ce qu'on comprenne que c'était intriguant parce qu'on était narcissique et qu'on croyait que les loups ne se positionnaient qu'en fonction de nous. Vraisemblablement, ils étaient là parce qu'ils pêchaient l'écrevisse et que les écrevisses étaient à cet endroit et que c'était indépendant de la présence des humains ou pas.
La peur du loup, c'est plutôt une affaire de l'époque moderne, 16e, 19e siècle. Là, la peur est immense et le fait que le Petit Chaperon Rouge soit publié par Perrault en 1697, c'est-à-dire à la fin du 17e siècle, ou que l'histoire terrible de la bête du Gévaudan se situe dans les années 1760, sous le règne de Louis XV, c'est assez révélateur de la modernité, au fond, de cette peur.
On entend ici la voix de Michel Pastoureau qui discute avec Mathilde Wagman dans une émission diffusée cet été sur France Culture. Il est question de la peur du loup. Je disais en introduction que c'était un animal qui, en plus de se dérober à notre vue, était depuis très longtemps présenté comme l'ennemi, voire le diable. Est-ce que ça a joué pour votre fascination, ou en tout cas pour votre intérêt?
Ah, je pense pas. Mais c'est dur de savoir, ça c'est un problème d'inconscient. Mais je ne pense pas, parce que c'est pas du tout ce qui m'intéresse sur le loup. Ça, c'est plutôt le malentendu constitutif de l'approche de la pastorale judéo-chrétienne qui a fait ce choix d'imaginer les ouailles comme des brebis orientées par un pasteur qui est en l'occurrence le personnage religieux, le clergé. Et ce faisant, par effet collatéral, le loup se retrouve incarné les pires figures et il se retrouve investi des pires aspects de l'âme humaine.
Mais ça a un impact tout de même, y compris quand on décide de philosopher ou de travailler à une nouvelle diplomatie. Et ça impacte aussi sur le comportement choisi par les humains à l'égard des loups, ce passif.
Absolument, absolument, ça impacte massivement parce que c'est ce qui code la plupart des interprétations du comportement du loup. Et actuellement, même dans des cas très concrets comme des situations d'attaque, lorsque le loup, par exemple, a un comportement qu'on appelle de surplus killing, qui l'amène à tuer plus de brebis qu'il n'en mange, spontanément, l'interprétation qui vient à l'esprit, c'est le sadisme, c'est tuer pour le plaisir.
Parce qu'il est vraiment très 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 méchant.
Voilà, il est très méchant, il est sanguinaire, il est cruel, et c'est vrai que c'est dur à comprendre pourquoi cet animal se retrouve à tuer plus d'animaux qu'il n'en mange. Mais en fait, éthologiquement, si on essaie de comprendre finement et délicatement quelle est sa trame comportementale, ça devient limpide. En fait, le loup a coévolué avec des ongulés sauvages qui, lorsqu'ils sont attaqués, se dispersent. Et à l'inverse, nous avons sélectionné les brebis de telle manière que quand elles ont peur, un éclair, un orage, elles se serrent les unes contre les autres pour faciliter le travail du berger qui doit les récupérer. Fatalement, c'est ce qui se passe quand les brebis sont attaquées par le loup, et le loup est entouré de toutes ses proies, donc il continue à attaquer pour maximiser les réserves potentielles. Et donc c'est nous qui avons produit, en mettant côte à côte ces deux systèmes éthologiques qui sont pas compatibles, cette situation que, a posteriori, on interprète comme étant sanguinaire ou cruel, alors qu'il n'y a aucun sadisme.
Alors qu'en fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, encore une fois, une forme presque d'adaptation au comportement humain ou à la pratique humaine.
Je ne sais même pas si c'est une adaptation parce que là, ce qui est vraiment très particulier, c'est qu'il y a un découplage historique. Donc le loup coévolue pendant des centaines de milliers d'années, peut-être plus avec des ongulés sauvages d'un côté, de telle sorte que chacun entretisse ses comportements à l'autre, chacun améliore ses capacités ou à attraper ou à fuir. Et ensuite, nous nous insérons là-dedans il y a à peu près 10 000 ans, 11 000 ans, avec le néolithique proche-oriental, où on va récupérer des mouflons qui sont des animaux de montagne, qui sont parfaitement capables de se défendre contre le loup. En fait, ils vont s'enrocher dans les corniches, le loup va pas les chercher, mais on ne garde entre eux que ceux qui refusent d'aller dans les montagnes et qui restent grégaires, collés les uns aux autres.
Parce qu'on a, nous, en tant qu'humains, un intérêt à cela.
Ah ben absolument, absolument. C'est parce que c'est beaucoup plus facile de pouvoir gérer, contrôler la population animale domestiquée de cette manière. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, le réflexe d'enrochage des brebis, qui consiste, lorsqu'elles prennent peur, à aller se monter sur des corniches inaccessibles.
Il est réprimé ?
Il est difficilement réprimé, mais surtout, parallèlement, elles ont moins les compétences d'agilité ou de hardiesse qui leur permet de redescendre. Et donc, le berger, c'est encore actuellement une des tâches les plus ingrates du berger, d'aller chercher les brebis qui se sont enrochées et qui sont coincées là-haut parce qu'elles n'osent pas redescendre.
Avec le néolithique, le jeu cosmique a changé, passant du hasard à la stratégie, d'un état de grâce face à la générosité de la nature à un troc, d'un cadeau rituel à un bienfait négocié. Clairement, le nouveau rapport à la nature, qui correspond à 3/100 du temps humain depuis le début du Pléistocène, a débouché sur la nécessité du contrôle. L'idée d'avoir le contrôle sur les corps, les animaux nuisibles, les prédateurs, les plantes, les animaux et les microclimats nous est familière, mais elle est relativement nouvelle pour l'esprit humain et elle peut déboucher sur l'ivresse du pouvoir. Si les bergers ont le droit de tuer les lions et les loups, ils y seront enclins. Les choses sauvages occupent désormais le rôle d'adversaire. Elles prennent de l'espace, du soleil ou de l'eau. Dès que les gens ont commencé à tuer les loups pour protéger leurs moutons, et à écraser les sauterelles pour protéger les récoltes, la nature sauvage s'est transformée en adversaire et les formes sauvages sont devenues les ennemis de tout ce qui était apprivoisé, de la même façon que dans une guerre entre deux armées ennemies. Le domaine du pouvoir est un continuum, il s'étend du contrôle des gens au contrôle de tous les autres. La seule alternative y est la capitulation ou la domination. Baptiste Morisot, c'est un des textes nombreux que vous citez dans votre livre. Il s'agit ici d'un texte de Paul Sheppard. Il intervient assez plutôt au début de l'ouvrage et il marque un renouveau, quelque chose qui est changé dans la relation entre l'humain et le sauvage. Et vous appelez d'une certaine manière un renouveau, quelque chose qui changerait encore. C'est un renouveau qui viendrait directement en réaction avec ce changement décrit par Sheppard.
Oui, en réaction, et puis ça me permet aussi, je dirais, de justifier cette idée de diplomatie qui peut sembler une métaphore à l'origine, et vous me direz si j'y parviens, dont j'essaie de faire un concept finalement, à partir de ce postulat que notre rapport historique à la nature depuis le néolithique est un rapport de guerre. Et ce rapport de guerre est bien décrit dans ce texte de Sheppard, qui est peut-être un petit peu radical, mais qui a le mérite de soulever des choses qui sont, il me semble, assez profondes, dans cette idée que dès l'instant où l'espèce humaine, par la domestication, en l'occurrence ici des moutons, des chèvres et puis des végétaux, les premiers blés, s'approprie une partie du vivant et donc invente quelque chose comme une forme de propriété, même si ça existe par ailleurs sous d'autres formes, se retrouve à inventer un conflit bien particulier avec le reste des animaux qui ou bien refusent le joug de la domestication, ou bien, encore pire, nuisent à ces propriétés qu'on a accumulées et qu'on va appeler sauvages. On est là face à l'invention du sauvage, qui est un corollaire direct de l'invention du domestique. Avant l'invention du domestique, il n'y avait pas de sauvage. Le vivant n'était pas sauvage. Et les attributs qu'on projette d'habitude sur le sauvage, ce déchaînement, cette sauvagerie, cette férocité, sont des produits de l'opposition construite avec la domestication. Ce qui est intriguant dans ce phénomène, c'est que la domestication ne consiste pas simplement à approprier une partie du vivant pour les humains et à rejeter dans la sauvagerie tous ceux qui refusent le joug ou qui s'y opposent. Elle consiste aussi à créer cette guerre. C'est-à-dire que, comme je l'expliquais brièvement tout à l'heure, c'est parce que nous avons sélectionné artificiellement les brebis de telle manière à ce qu'elles perdent leurs moyens de défense naturels, elles sont devenues sans défense, elles sont devenues dépendantes, elles sont devenues extrêmement fragiles, et conséquemment, on se retrouve face à la responsabilité de les protéger, face au grand prédateur qui devient un ennemi, alors même que c'est nous qui les avons transformés en un sens en victimes, en les privant de ces moyens de défense qui sont omniprésents chez leurs ancêtres sauvages, comme le mouflon du Proche-Orient.
C'est d'ailleurs ce que vous décrivez beaucoup plus loin dans le livre, en parlant de l'appartenance et en proposant une définition, il me semble que c'est la vôtre, qui est l'appartenance, c'est ce que l'on peut protéger, et le reste, il revient au plus fort de s'en emparer. Et d'une certaine manière, c'est aussi parce qu'on a voulu que des animaux nous appartiennent et de pouvoir en jouir, qu'on les expose à qui est le plus fort, en l'occurrence le loup.
Absolument. Absolument. En créant cette situation d'appropriation et en déplaçant des populations, parce que c'est ça la domestication. Là, en l'occurrence, la domestication, j'entends du mouton, on déplace des populations qui étaient dans les montagnes, dans les plaines, et dans les plaines, eh bien, on se retrouve en confrontation avec un prédateur qui avait peu accès autrement. Et finalement, ce que ça met en scène, c'est la création d'une opposition entre deux prédateurs. Et ici, on se retrouve dans la situation de ce conflit qui est lié à notre situation écologique analogue. En tant que nous sommes des omnivores à tendance carnivore depuis peut-être 2 millions d'années, que les loups sont des purs carnivores, on entre en conflit pour un bien qui est le bétail, mais que nous avons transformé en victime potentielle du loup, ce qui nous amène ensuite à théoriser notre droit sacré de lutter contre un ennemi dans une guerre que nous avons en fait inventée.
Et d'ailleurs, avant d'aller un peu plus avant vers la diplomatie et vers des relations plutôt pacifiques, on peut rester un tout petit peu sur des situations en effet conflictuelles. Vous revenez bien sûr sur le combat qui oppose des bergers, des responsables de troupeaux et le loup. Vous êtes parti aussi d'une analyse de cette conflictualité qui est peut-être la plus mise en avant quand on parle du loup aujourd'hui.
Absolument, c'est la plus mise en avant et à juste titre, parce que la situation est très problématique, elle est très problématique pour les bergers, pour les éleveurs et conséquemment pour les loups et je dirais pour tout le monde parce que les positions se radicalisent. Dans les faits, il ne faut pas faire de cet événement néolithique, je dirais, une critique du pastoralisme ovin. Les brebis sont telles qu'on les a faites. Il faut les aimer ainsi, il faut les protéger ainsi. Simplement, ce que ça questionne, cette idée que nous sommes responsables de leur dépendance et de leur fragilité, c'est notre droit sacré à ériger le prédateur en ennemi et en criminel.
Et à faire feu, hein,
conséquemment. Et conséquemment, bien évidemment, à faire feu. Dans les faits, il faut protéger les troupeaux. Dans les faits, actuellement, il y a toute une série de dispositifs qui sont imaginés, expérimentés, pas encore suffisamment efficaces. Il faut amplifier l'effort d'expérimentation. Mais c'est une expérimentation qui doit vraiment prendre en compte la tentative, non pas de rejouer indéfiniment notre suprématie despotique sur le vivant et qui peut essayer d'imaginer, enfin c'est ce que j'essaie de faire, des relations d'un autre type que j'appelle diplomatiques.
Et qui ne sont pas, et j'espère qu'on ira assez loin, et qui ne sont pas du tout de l'ordre de l'impossible ou de la rêverie, ce n'est pas que théorique votre proposition. Est-ce que c'est un discours qui est audible auprès des bergers ou des responsables de troupeaux aujourd'hui, pour ceux que vous avez pu rencontrer ?
Eh bien, les bergers et les éleveurs sont très multiples, très différents. Je pense que c'est audible pour certains et je pense que ça l'est moins pour d'autres. On verra.
Mais le chien le plus sauvage et le plus dangereux, c'est le loup. Se trouver face à face d'une meute de loups dans la Sibérie, c'est d'une aventure qui généralement ne peut arriver qu'une fois. Le loup a un véritable hurlement avec un drain d'aboiement. Dans quelques secondes, vous allez entendre les cœurs d'hurlement des loups, et je suis sûr que cela va vous faire frissonner. Mais être à l'écoute, à la radio, ne vous fait pas de mal. L'hurlement et l'aboiement sont une expression de communauté. Le hurlement solo de la tête de la meute attire l'attention sur une proie. J'ai déjà dit que le loup est un animal des plus dangereux. Persuadez-vous, en écoutant la voix féroce du loup attaquant sa proie. Vous l'avez entendu, c'est très court, mais tout ce qu'il y a de plus dangereux.
On entend la voix de Ludwig Koch ici dans une archive de 1951 diffusée sur la BBC. Ce sont des enregistrements qu'il a fait lui-même en Sibérie. Ils sont très courts et dit en même temps ça ne vous fait pas de mal d'écouter à la radio. Mais ça nous emmène l'air de rien vers le terrain diplomatique. Car vous l'écrivez bien, Baptiste Morisseau, il faut trouver ce terrain de langage, de discussion. Alors, et vous revenez aussi sur la question du contrat, mais... Peut-être puisqu'on nous propose avec cette archive d'entendre le hurlement, faut-il se questionner sur qu'est-ce que nous avons en commun avec le loup pour, sinon parler, communiquer, en tout cas entreprendre les débuts d'une diplomatie.
Oui, alors c'est le point du problème et c'est ce qui est le plus difficile à penser parce que nos catégories de catégories philosophiques et même métaphysiques de ce que c'est qu'un animal nous interdisent d'aller dans cette direction. On est comme le théoriste Philippe Descola déshérité du naturalisme, cette conception du monde qui postule que nous sommes les seuls dotés d'intériorité et que le reste est de la matière simplement déterminée par sa physicalité, ses propriétés physiques, et conséquemment, fatalement, on ne peut pas faire de la diplomatie avec de la pure physicalité. Simplement, cette ontologie, elle est en train d'être fragmentée par des savoirs émergents qui proviennent, pour ce qui est du vivant, de l'éthologie cognitive, de la biosémiotique, de l'écologie contemporaine. Et c'est à partir de ces savoirs que on peut bouleverser, que sont bouleversées, je dirais, assez spontanément, les anciennes cartes par lesquelles on s'orienter dans nos relations au vivant, notamment sur cette question de la communication. Alors, il est évident qu'on ne parlera pas avec le loup, et il est évident qu'on ne passera pas des pactes au sens où on signe des contrats. Par contre, ce que montre la biosémiotique, c'est qu'il existe constamment des formes de communication que l'éthologie a bien documentées, et que cette communication, si jamais on s'insère finement dans l'éthogramme de l'animal, c'est-à-dire dans sa trame comportementale propre, dans sa manière de recevoir et d'échanger des informations, on est susceptible d'échanger avec lui des informations, de signifier des limites qui font sens à l'intérieur de son propre monde, beaucoup plus que la clôture, la frontière administrative ou le coup de fusil, qui sont des types de transferts d'informations assez rudimentaires.
D'ailleurs, pour s'attacher simplement au dernier point, il est démontré, vous dites dans votre livre, que c'est assez rudimentaire ce coup de fusil et qu'a priori ça ne fonctionne pas si bien que cela. Est-ce que vous pouvez détailler ?
Absolument. Alors, il y a plusieurs types de coups de fusil, en l'occurrence, et plusieurs types de tirs. Certains sont pertinents et efficaces. Je prétends pas du tout qu'il faut...
Pas du tout tirer.
Les tirs d'effarouchement sont probablement importants et efficaces. Les tirs de défense au troupeau au moment des tentatives de prédation sont certainement efficaces. Tout ça, c'est à expérimenter, à réfléchir. Par contre, en effet, il y a une des techniques qui est très problématique. C'est le tir de prélèvement qui consiste à prélever un loup au hasard dans une zone où il y aurait eu des prédations. Et en fait, qui repose sur une représentation de l'animal qui est presque archaïque et qui consiste à postuler que si jamais il y a de la prédation, c'est parce qu'il y aurait quantitativement et abstraitement trop de loups. Et s'il y a un peu moins de loups, il y aurait moins de prédation. Ça, on sait très bien que c'est faux. Il y a des endroits où il y a beaucoup de loups, il n'y a aucune prédation sur les troupeaux. Il y a des endroits où il y a très peu de loups, il y a beaucoup de prédation sur les troupeaux. Il y a des meutes qui, tous les matins, pour aller chasser, traversent des troupeaux de bétail dans le Montana.
Sans les toucher
et qui reviennent. Et enfin, le point que vous soulevez, qui est en effet assez intriguant et qui a été documenté dans un article de 2013, je crois, de Vilgus et Peebles aux États-Unis, qui montre que, en effet, cette mesure qui consiste à tirer au hasard et à prélever au hasard un loup dans une meute, est susceptible d'être contre-productive. Alors c'est assez contre-intuitif, mais avec un peu d'éthologie ça devient évident. Les meutes de loups sont des ensembles sociaux complexes qui ont une chasse, des techniques de chasse organisées, qui exigent d'avoir de la cohésion, de la coopération. Ça leur permet de s'attaquer à un gibier qui est vigoureux, comme en l'occurrence les chamois, les chevreuils, peut-être en partie les sangliers probablement. Mais dès l'instant où, par hasard, vous tuez un élément central de la meute, par exemple un des parents reproducteurs ou un chef de chasse, eh bien vous êtes susceptible de fragmenter la meute, elle perd sa cohésion de chasse, et ce faisant, les individus ne peuvent plus prédater des gibiers difficiles, et ils reportent spontanément leur prédation sur le gibier extraordinairement facile à attraper, qu'est la brebis, puisqu'elle ne sait plus se défendre.
Pour en revenir à la question de la communication, puisqu'elle est en effet centrale, hein, vous expliquez bien que la question de départ, c'est de savoir est-ce qu'on va les laisser, les animaux et les loups, monter tous dans l'arche, ou est-ce qu'il va falloir nous descendre un peu, mais surtout la question de leur entrée dans l'arche et dans la sphère politique pose cette question de la communication. Je disais en introduction que vous avez une compagnie assez sympathique qui est une compagnie de diplomates hybrides, que vous appelez les diplomates garous, parmi eux plein de gens, dont Saint-François. Pourquoi est-ce que sur cette question de la communication et du langage, c'est un exemple intéressant, à suivre, en tout cas, dont on peut s'inspirer?
Saint-François, c'est un personnage très intéressant pour moi parce que, déjà, c'est un héritier d'une certaine métaphysique du rapport à la nature, qui est la métaphysique judéo-chrétienne, qui a été théorisée assez bien, notamment par John Baird Callicott, comme une métaphysique de l'intendance. Dieu aurait fait la nature pour nous et elle est à notre charge. Il faut la soumettre, comme dit la Genèse, et en même temps, il faut être ses intendants. Et à partir de là, le modèle diplomatique semble assez peu à la mode, mais Saint-François est de ce point de vue-là assez original, avec cette capacité qu'il a de parler avec tous les animaux, et puis avec cette anecdote hagiographique du loup de Gubbio. Donc ce fameux loup terrorise les Eugubins, qui veulent plus sortir de la ville, qui sont terrorisés, le loup mange le bétail, il mange les humains, et Saint-François arrive en ville, il sort seul et sans armes, et il fait palabre avec le loup, et il conclut avec lui un pacte. Ce pacte consiste à obtenir de lui qu'il n'attaque plus les humains et le bétail si jamais il est nourri par les habitants. Et le loup, en l'occurrence, on le voit ensuite errer dans les villes en obtenant des petits morceaux de viande que lui jettent les habitants. Bon, on a là un mythe de la domestication, hein, la transformation de l'ennemi prédateur en cet adjuvant qu'est le chien. Le chien étant bien évidemment l'ancêtre, le descendant du loup, pardon. Mais ce qui est fascinant dans cette anecdote, c'est que conjointement, elle met en scène le phénomène diplomatique et en même temps, elle l'interdit. Elle l'interdit précisément parce que le dispositif de communication par lequel Saint-François parle au loup, c'est le verbe divin qui lui est conféré par le Saint-Esprit, qui lui permet de parler toutes les langues.
Dont on dispose pas tous, quoi.
Dont on dispose pas tous, les saints étant chose rare. La question devient, est-ce qu'on peut imaginer des dispositifs diplomatiques qui reposent sur des systèmes de communication qui existent effectivement, qui sont manipulables par nous, qui sont accessibles. Et c'est là que je fais passer le relais de Saint-François à l'éthologie ayant éminemment théorisé tous ces dispositifs de communication qui sont omniprésents dans le vivant et que l'on peut nous-mêmes entreprendre pour interagir et communiquer avec lui.
Et alors dans ce cas, en se fondant, en imitant, en gardant notre propre possibilité de communiquer et en la proposant d'une certaine manière à une autre forme de communication, par quelle voie ?
Alors donc là, il y a toute une série de possibilités. Dans un premier temps, l'éthologie théorise ça. On le voit chez Lorenz, par exemple. Il faut isoler des stimuli ou des signes qui font sens dans la fenêtre perceptive de l'animal. Et deuxièmement, qui font sens à l'intérieur de sa trame comportementale. Lui-même est un spécialiste de la chose. Il communique avec ses choucas. Il les fait revenir le soir en imitant leur cri de contact. Et ce phénomène, il est assez visible même dans les techniques actuelles de gestion du loup, par exemple. On a entendu les loups hurler tout à l'heure. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage, comme les zoologues du Yellowstone, utilisent une technique dite du hurlement incitatif. Donc l'été, à la nuit, ils vont hurler aux loups en se situant pas trop loin des meutes, mais de manière à être quand même suffisamment discret. Et leur hurlement est pris par les loups pour un hurlement lupin, la plupart du temps, c'est les louveteaux qui se laissent tromper, qui se mettent à hurler, et toute la meute le reprend en cœur, et ça permet à l'ONCFS de compter et de recenser en fait les portées de louveteaux chaque année, en incitant de cette manière le hurlement. Ce dispositif de communication-là, néanmoins, il n'a pas d'effectivité sur la modulation de leur comportement. Et toute la question, c'est
est-ce que... C'est quand même une entrée, pas forcément en dialogue, mais c'est ça pose des premières bases pour une diplomatie.
Absolument. Ça pose, moi je dirais, les conditions de possibilité, c'est-à-dire que ça montre que c'est possible. C'est possible parce que le vivant est un immense réseau de communication, une grande symphonie de communication et d'échange de signes volontaires et involontaires. Et nous sommes des vivants, et ce faisant, si on arrête de fantasmer mais notre élection comme si nous étions les seuls à manipuler du signe, on se retrouve réembarqué dans cette grande politique vitale dans laquelle on peut à nouveau échanger des messages avec le reste du vivant.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I have lost my wife and children, but I have many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then will come from the shadow.
Mes amants étaient chez moi. Ils me disent résigne-toi. Mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom. J'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière.
Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés. Les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise.
Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
Le parc de Yellowstone, par exemple, qui est un des premiers parcs naturels occidentaux, était quasiment sous cloche. Et il continuait de se dégrader. Les arbres disparaissaient, les berges des rivières s'érodaient, etc. Et finalement, ils ont réintroduit 12 de loups du Canada. Et aussitôt, on s'est aperçu de ceci. Les loups ont dévoré les wapitis qui broutaient les arbres. Des arbres ont recommencé à croître. Sur ces arbres sont venus se poser des oiseaux. Les arbres tombaient dans la rivière. En tombant dans la rivière, ils ont ralentissé le cours. Ça faisait des frayères pour les poissons. Et les castors ont fait des barrages. Sur ces barrages, sur ces petits étangs, des canards sont venus se poser. Et en une dizaine d'années, le parc de Yellowstone a recouvré une vraie vie grâce à la réintroduction d'une douzaine de loups. Un maillon, comme je disais, qu'on avait enlevé et qu'on a remis. Et qui, évidemment, est sujet de polémique puisque les éleveurs demandent maintenant qu'on retue les loups. Eh bien, Voilà, donc c'est possible, mais si on le met tout ça sous cloche en disant voilà une fleur, vous pouvez la photographier, mais n'y touchez pas, et maintenant c'est au suivant, etc. Comme ça se passe déjà hein, pour dans les parcs nationaux pour voir des animaux, quand c'est très organisé, ça se passe comme ça. Voilà, maintenant c'est votre tour, vous avez vu, merci, maintenant c'est au suivant. Bon, ça c'est déjà mort. On a besoin d'être quelque chose de vivant et d'un peu sauvage, d'un peu libre, d'un peu désorganisé. C'est certainement une relation que nous avons perdue. Et le fait que nous l'ayons perdu fait qu'on ne la comprend plus. C'est ce qui explique aussi l'hostilité, par exemple, des éleveurs français par rapport aux prédateurs. Alors que dans les pays d'Europe de l'Est, où il y a assez des vrais bergers qui gardent leurs troupeaux et des prédateurs, des loups et des ours, la cohabitation se fait sans problème. Donc, de temps en temps, un mouton disparaît, de même qu'il tombe d'un rocher ou qu'il se noie. Et quand un berger se retrouve face à un ours, vous savez, ils ont le bâton, la hulotte, qui servait simplement à attraper la patte du loup, ce qui suffit pour qu'il parte. Ils n'ont aucune peur des ours ou des loups. Il n'y a aucune raison d'en avoir peur. Il n'y a que les gens qui ne les connaissent pas qui en ont peur. C'est ce que je vous disais à propos des étrangers, tout simplement. Les gens qui avaient peur des étrangers, c'était ceux qui ne les connaissaient pas. Et ceux qui ont peur aujourd'hui, qui prétendent avoir peur des loups ou des ours, ce sont ceux qui n'en ont jamais vu.
Même pas peur, en quelques termes, dit Armand Farachi, ici, au micro de Ruth Stegassi, dans une émission Terre à Terre diffusée sur France Culture. Il parle du parc Yellowstone et donc de cette réintroduction à plusieurs reprises d'une douzaine de loups qui réensauvagent le parc d'une certaine manière. Vous aussi, vous évoquez, Baptiste Morisot, le parc Yellowstone comme étant un laboratoire de géopolitique et vous passez à une application plus concrète des hypothèses que vous avancez au début du livre, notamment en fournissant des cartes, Lupine, des cartes de déplacement. En quoi, d'un seul coup, la géopolitique, elle devient quasiment visible?
Oui, ça, c'est vraiment quelque chose de fascinant qui a eu lieu par une série de coïncidences, en un sens, parce que donc le loup est réintroduit au Yellowstone. Le Yellowstone a un faciès écologique tel qu'on peut observer les loups à grande distance. Ils sont présents, ils ont des colliers GPS qui permettent de les suivre. Et en fait, ça va faire bondir nos savoirs scientifiques sur le loup. On va en apprendre plus en 20 ans que tout ce qu'on a oublié depuis quelques siècles. Et notamment, on va comprendre des choses sur ces aptitudes géopolitiques propres aux loups qui sont assez fascinantes et qui tiennent à leur capacité à dessiner des territorialités par des laissés, en l'occurrence, qui sont des excréments, qui sont marqués avec des sécrétions glandulaires et qui permettent déposer tous les 50, 100 mètres, ou ça dépend des situations, de dessiner une frontière qui est invisible pour nous, une frontière qui est olfactive, et qui signifie des informations aussi bien aux individus de la meute que aux individus des autres meutes, qu'aux autres groupes lupins. Ce qui est assez fascinant, c'est que ces frontières, enfin ces marquages, ont, je dirais, une dimension qui est prodigieusement riche du point de vue des loups, si on accepte d'être perspectiviste, c'est-à-dire de voir le monde par ses yeux. Nous sommes des primates, et les primates, on considère leurs excréments comme des déchets répugnants. Mais chez les carnivores, l'évolution a fait quelque chose d'assez magique, c'est qu'elle a récupéré ce déchet métabolique et elle lui a attribué une nouvelle fonction, qui est une fonction de blason, qui est une fonction de drapeau de frontière et qui est une fonction de dispositif de pacification. C'est-à-dire qu'elle a pris le plus trivial et le plus ingrat et elle l'a érigé en un sens en le plus noble. Je parle de blason, c'est pas strictement au sens métaphorique. Dans une laissée, un loup peut sentir l'identité, le sexe, la disponibilité sexuelle, peut-être même l'état émotionnel de celui qui l'a déposé. Je parle de drapeau parce que on voit bien ici que dans le marquage territorial, le marquage module le comportement des meutes. Une meute ou un loup solitaire qui arrive face à une frontière olfactive s'arrête. Et ici, on se retrouve face à quelque chose de fascinant. On se retrouve face à quelque chose qui ressemble, si on l'analyse un peu rigoureusement, à de la convention. La frontière lupine, le marquage, ne contraint personne. Absolument, entre les meutes. Cette frontière ne contraint personne physiquement. C'est pas une barrière. C'est une barrière cognitive. C'est-à-dire que c'est une barrière conventionnelle. C'est une barrière conventionnelle parce que c'est pas quelque chose qui impose un arrêt. L'arrêt est une règle qui est acceptée par l'animal et qui va moduler le comportement collectif des différentes meutes. Donc en ce second temps, c'est une convention. Et ça, si on accepte de le regarder en face, c'est quelque chose qui est qui est assez révolutionnaire en fait au regard de notre conception de l'animal.
Puisque... Mais qui est révolutionnaire parce qu'on le découvre ou on le redécouvre, mais c'est préexistant.
Absolument.
C'est-à-dire que j'imagine que ça ne date pas d'hier, que les meutes entre guillemets s'organisent entre elles pour respecter des territoires, ne pas franchir des frontières ou en tout cas les franchir sous certaines conditions.
Exactement.
Alors nous en avons, nous, connaissance par ces nouvelles cartes-là, ce qui nous permet de mettre à jour une géopolitique entre les meutes. Maintenant, comment on peut engager, partant de cette connaissance-là, une géopolitique dans laquelle on rentrerait, quoi. On rentrerait en jeu.
Absolument. Donc, qu'est-ce qu'on peut en faire de ça? On peut en faire beaucoup de choses, et c'est ça qui est assez fascinant, parce qu'un autre aspect de ces marquages, c'est qu'ils sont aussi interspécifiques. C'est-à-dire entre espèces. Et alors ça, c'est assez difficile à analyser, mais quand on piste, par exemple, dans le Haut-Var, il y a quelques années, on était, dans les Alpes de Haute-Provence, dans la vallée de la Durance, on a suivi longtemps une limite territoriale lupine, et en fait, les laissés étaient déposés bien en vue sur un sentier humain, mais sur des pierres blanches, sur des endroits qui étaient spectaculaires, et à côté, il y avait d'autres laissés, d'autres mammifères, des mustélidés, belettes, putois, renards, qui en fait était comme une sorte de dialogue de drapeau à drapeau, mais là que moi je suis personnellement incapable d'interpréter, il faudrait des diplomates plus subtils. Donc il y a aussi des marquages interspécifiques et cette possibilité de dialogue entre espèces est présente dans le vivant. Ce qui est fascinant, c'est que non seulement elle est présente, mais que en plus d'être un blason et une convention, la frontière territoriale, c'est un dispositif de pacification. Ça a été théorisé en écologie, on appelle ça le « deer enemy effect », c'est Alcock qui pense ça en 2009, l'effet du cher ennemi. On a montré que dès lors que deux populations territoriales établissent fermement des frontières entre elles, le taux d'agressivité mutuelle baisse considérablement. Et là,
ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas franchissables.
Elles sont bien sûr franchissables, comme les frontières humaines sont franchissables. Mais par contre, le taux de l'agressivité entre les groupes baisse, et on est là face à quelque chose d'assez fascinant, qui est que l'évolution, bien avant les humains, a inventé des institutions de pacification, collectives entre groupes qui sont politiques, et dont on peut faire l'hypothèse que nos propres institutions de pacification ne sont que des extensions, des déploiements, bien évidemment particulières, puisque nous parlons et nous avons des formes bien, bien originales de manipulation des symboles. Mais ces dispositifs de pacification sont présents dans le vivant, et toute la question, c'est comment peut-on s'y insérer? Et alors là, en effet... Il y a une initiative qui me fascine, qui a été proposée par un biologiste du Montana qui s'appelle Dave Housband. C'est une initiative de biofences qui consiste en fait à produire dans des fioles des odeurs qui représentent dans l'esprit du loup une meute puissante, une meute à laquelle ne pas se frotter. Et Housband a parcouru donc l'Idaho et le Montana, et il a établi avec ses petites fioles odorantes des marquages. Et il a poussé l'audace jusqu'à dessiner une frontière entre une meute de loups qui attaquait les troupeaux et un troupeau de moutons qui était à 1,5 km de là. La meute avait attaqué les troupeaux pendant les 4 années précédentes, et l'année où il a posé le marquage, il n'y a eu aucune attaque. Ils n'ont pas franchi la frontière. L'année suivante, il y a eu quelques franchissements, et ils ont conclu que le dispositif est à améliorer, à amplifier, et c'est très clairement, très probablement une idée assez brillante du point de vue de la diplomatie perspectiviste qui mérite d'être expérimentée.
Ce qui nous ramène quand même à une question qu'on a déjà posée, c'est-à-dire... Tout cela nous permettrait de penser qu'il y a une diplomatie active dans l'espèce, mais aussi entre les espèces, et une diplomatie plutôt pacifique, organisée. Donc elle existe, dont nous n'avons pas, ou en tout cas perdu connaissance, dont nous retrouvons progressivement la connaissance, mais dont nous nous sommes extraits. Mmh. Et ça pose quand même cette question-là, c'est-à-dire... Pourquoi nous nous sommes extraits de ce vivant où existe cette diplomatie qui nous amène en 2016 à se dire « bon bah les gars, il va falloir en inventer une nouvelle », alors que peut-être elle est existante, y compris avec nous dedans.
Bien sûr, bien sûr. Alors, elle est organisée absolument, est-ce qu'elle est pacifique? Elle est complexe en fait, elle est complexe, c'est-à-dire que dans le vivant, il existe des rapports diplomatiques et des dispositifs de pacification, mais il existe aussi des conflits radicaux, il existe aussi de la prédation, il existe même des espèces qui se détruisent les unes les autres. C'est une des modalités de relation au vivant. Elle existe avant nous. Moi, je fais volontiers l'hypothèse, grâce à ces grands anthropologues que sont Philippe Descola, Eduardo Viveros de Castro, que certaines ontologies, comme ils disent, notamment l'animisme ou certains modes de gestion de la réalité comme le chamanisme, étaient très lucide sur cette diplomatie.
Notamment en permettant un passage vers les autres espèces, en ne considérant pas que les frontières sont étanches.
Absolument, un passage, un dialogue, des interactions. Je cite une phrase d'Eduardo Viveros de Castro qui définit le chamanisme comme un art politique et même une diplomatie. Il est très probable que quand il a fallu cohabiter, immerger dans des habitats partagés, c'est-à-dire avant qu'on invente la nature,
comme étant quelque chose de séparé,
mis en dehors de nous, nous étions constamment voués à être d'excellents diplomates et que nous avons fondamentalement oublié la plupart des choses. Je pense que non seulement il y a des choses dont il faut se ressouvenir, et là c'est très intéressant de faire de l'ethnographie des dispositifs de cohabitation qui sont extrêmement fins et qui sont omniprésents chez les cultures, dans des cultures qui n'ont pas abdiqué cette immersion dans des habitats partagés. Et parallèlement, il faut profiter des découvertes contemporaines de l'éthologie cognitive, des moyens, des sciences du comportement qui sont maintenant, en tout cas sur certains points, intéressés par cette délicatesse et cette subtilité des comportements animaux.
Ce qui quand même interpelle, c'est la violence avec laquelle elle a été détruite, cette délicatesse et cette subtilité. Et du coup, ça demande à questionner quels sont les bienfaits, parce que la destruction, elle est là parce que forcément sont supposés des bienfaits qui vont avec. Quels sont les bienfaits qui vont avec ça? Avec à la fois cette extraction de la nature et du vivant qui fait de nous, l'espèce humaine, en particulier, lointain, et à la fois l'oubli, en tout cas, de cette diplomatie.
Alors, c'est très difficile comme question. C'est très difficile parce que nous sommes les héritiers d'une conception de l'histoire humaine dans laquelle, avec le néolithique, commence la civilisation. Et le néolithique, avec cette fameuse domestication par laquelle on s'approprie toute une série de populations, on les sélectionne artificiellement à notre usage et à notre avantage, c'est l'origine, en effet, de la séparation du travail, ensuite des villes, de l'écriture. C'est-à-dire qu'on a codé ça comme le moment où nous sommes devenus civilisés. Et l'originalité de penseurs comme Paul Sheppard, c'est que ce qu'il propose d'absolument révolutionnaire, c'est de dire peut-être qu'on s'est trompé. Peut-être qu'on s'est trompé et que le néolithique, c'est pas le moment où enfin nous sommes devenus civilisés, c'est le moment où nous avons brisé les liens fondamentaux qui nous liaient avec les communautés biotiques. Je pense que la vérité est plus subtile, même si on avait besoin que Paul Sheppard tire le balancier à l'autre opposé. Parce que de fait, en tant qu'héritier du néolithique, il y a beaucoup de choses, beaucoup de bienfaits dont on en a tiré. Maintenant, cet héritage du néolithique, quand il a pris la forme d'un naturalisme effréné, d'un extractivisme, et puis de cet usage, de cet extractivisme technoscientifique qui considère la nature comme une matière à piller, cet héritage est absolument destructeur. Il met en danger notre existence dans la biosphère et il faut revenir à autre chose. Enfin non, revenir, c'est pas du tout le bon mot.
En tout cas, inventer.
Il faut réinventer des formes de cohabitation en s'inspirant de choses qui existaient, en s'inspirant des formes les plus pointues de science pour sortir des dérives de cette position d'extraction par lesquelles on a assimilé ce qui était en fait notre communauté biotique à de la nature, puis à de la matière, qui n'était qu'une pure ressource dont on pouvait jouir indéfiniment, sans lien de réciprocité envers elle.
Ce qui m'obsède, c'est que sur tous les visages de tous les ours que Treadwell a filmés, je ne trouve aucune affinité, aucune compréhension, aucune pitié. Je vois seulement la colossale indifférence de la nature. Pour moi, il n'existe pas de monde secret des ours. Et ce regard vide n'exprime qu'un vague intérêt pour la nourriture. Mais pour Timothy Treadwell, cet ours était un ami. Un sauveur.
On entend ici la voix de Werner Herzog. C'est fait un extrait du documentaire Grizzly Man où en effet un homme est allé fréquenter de plus en plus près des grands ours et s'est finalement fait tuer. Il est question ici du regard. Herzog dit qu'il n'y voit rien d'autre qu'une appétence pour la viande. Il se trouve, pour boucler la boucle, que vous racontez dans un article paru dans Vacarme, un regard échangé. Vous commentez aussi le regard très délicat, notamment que détaille Vincéenne Després, et la délicatesse de cette observation. Ce serait la clé où il faut être regard, plus écoute, plus pistage, plus...
Alors, la clé, je prétends pas la posséder. Je pense qu'il faut multiplier les disponibilités à la finesse des communications dans le vivant. Je suis vraiment fasciné par cet extrait, je l'avais lu moi-même, et en fait il me fait bondir, parce que je pense qu'il n'a rien compris Herzog. Je pense qu'il ne fait qu'exprimer à quel point il est un héritier de ce naturalisme qui nous a fait croire que la nature était de la matière morte.
Mais qu'elle nous considérait aussi comme de la matière morte. Parce que ce que dit Herzog là, c'est que la seule chose qu'il a vue dans l'œil de l'ours, c'est que l'ours regardait son ami Timothée comme de la viande.
Bien sûr, bien sûr. Mais il faudrait qu'il lise un peu d'éthologie, Werner Herzog, parce que là, on est dans une situation qui est absolument critique à l'égard du monde vivant. Et si on continue à maintenir cette conception moderne du monde dans laquelle nous sommes la seule conscience dans un monde mort, muet et absurde, voué à inventer du sens alors qu'il n'y en a pas, on ne risque pas de rétablir des liens de réciprocité qui non seulement rendent notre survie possible, mais surtout qui rendent la vie plus belle. Parce que le vivant, de ce point de vue-là, est extrêmement riche, et notamment avec les ours en particulier, il y a des relations diplomatiques complexes qui ont existé, qui existent, que toute une série de chercheurs essaient de remettre en place, et qui sont très loin de ce qu'ils décrivent.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
Et chaque jour à cette heure-ci, nos discussions se suspendent pour faire entendre des récits de moments, des récits de tournants. Qu'est-ce qui vous a marqué? C'est la question qu'on pose chaque semaine à quelqu'un. Aujourd'hui, Marie Amp, qui est une jeune costumière, qui travaille actuellement pour la compagnie du théâtre Inutile, s'est prêtée à l'exercice.
Il y a une dizaine, il y a 10 ans, j'ai réalisé ça hier, il y a fait 10 ans. La première année de ma formation de costume, toute fraîche, toute jeune, attaquer cette formation. Donc c'était un diplôme des métiers d'art, une formation qui se fait en 2 ans. Et moi j'avais un petit bagage de couture, mais très léger, quoi, on va dire. Et donc on attaque par ce truc-là. Un gros projet, pas du tout classique, avec la réalisation, enfin la conception et la réalisation de costumes pour un spectacle, donc dans un cadre réel, quoi. Avec, chapeauté par l'équipe pédagogique, et puis 2 costumiers, Dominique Fabregue et Christian Burle. Et donc, on nous balance dans ce machin-là, assez dingue, et avec Dominique Fabregue, qui est costumière qui, je crois, a pas mal bossé avec Mathilde Monnier, enfin, pas mal pour la danse, et qui a développé un principe, donc, qu'elle appelle coupe en un morceau. Donc, la base, c'est que quand on fabrique un vêtement ou un costume, on fait un patron. Que ce soit à plat ou sur un mannequin, mais voilà, on fabrique une base de travail. Et donc, en général, les vêtements comme ceux qu'on porte là aujourd'hui, c'est des vêtements qui sont fabriqués de plusieurs morceaux qui sont assemblés pour s'emboîter autour du corps. Là, on est dans un truc qui n'a rien à voir, c'est-à-dire que on va penser à un vêtement qui va entourer le corps, mais d'une seule pièce en fait, avec une seule couture qui va parcourir le corps selon des chemins qu'on va décider. Et voilà, qui du coup, enroule vraiment le corps, et avec comme considération de base de le corps comme une totalité, quoi. Vraiment à la base, ce qui arrive toujours au bout d'un moment quand on fabrique un vêtement, mais là c'est vraiment un point de départ. Et avec un travail très spécifique, au point de départ, c'est une sorte de cartographie du corps. On fabrique une carte avec des points qu'on relie entre eux. Donc elle a développé toute une pratique assez technique avec de la trigonométrie, enfin des trucs assez fous. Et on commence par fabriquer un harnais, donc qui va être une espèce d'empreinte du corps, en fin de compte, un moule du corps, quoi. Donc avec la singularité de chaque corps sur lequel on fabrique ce harnais-là. Et c'est ça qui va nous donner le patron, en fait. À un moment donné, on va l'enlever du corps, on va le mettre à plat, on va le déployer. Et ça va nous donner la base, le patron, avec lequel on va pouvoir réaliser le costume. Et du coup, on arrive à des trucs qui sont pas du tout économes en tissu, évidemment, puisque voilà, il y a beaucoup de pertes. Mais on a des formes abstraites avec des arrondis, des trucs qui peuvent évoquer des motifs végétaux, des lignes, assez extraordinaires. Donc déjà, ce travail-là en soi, c'était de découvrir ça avec très très peu de notion de couture et puis une conception du vêtement un peu figée que j'avais au tout début de la formation. Voilà, donc ça explose complètement tous les repères. On prend appui dès le départ sur une totalité. Et puis, dans la forme du vêtement aussi, ça donne des choses qui sont assez chouettes parce que ça va épouser le corps. C'est un principe de coupe qui est pas mal pour des questions de mouvement, par exemple. Bah, c'est pour ça aussi que cette costumière travaille beaucoup pour la danse, parce que du coup, ça va épouser. On travaille avec des tissus un petit peu élastiques, avec du jersey, des choses comme ça, qui vont vraiment faire une seconde enveloppe dans laquelle le corps va être complètement libre de se mouvoir, quoi. Et on finit avec Requin Chagrin et Rose. Merci beaucoup Baptiste Morisseau d'avoir été avec nous pour commencer cette semaine. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les diplomates cohabiter avec les loups sur notre carte du vivant aux éditions Wide Project.
Merci à vous.
Les Nouvelles Vagues, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on peut réécouter l'émission et celles qui les précèdent sur le site franceculture.fr. À la page des Nouvelles Vagues, on peut aussi s'écrire, se répondre, se lire via Twitter et Facebook. Cette émission est imaginée avec Romain de Bec-de-Lièvre, Alice Ramon, Inès Duperron et Lise Combe qui la réalise avec aux manettes aujourd'hui. Dali, Ya, dans un instant, on retrouve Mathieu Garrigou-Lagrange avec de la littérature.